Terrorist networks. Terrorist states.
Et non, 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 mais bien sûr que non, nous ne sommes pas des terroristes.
Toujours
divergence
pas.
Numérique numéro, Pascal.
Ah, c'est la numéro 14 de cette saison 8 ou la 94e émission. Donc temps passe.
Bientôt la centième.
Bientôt la centième dans 5 semaines.
De ce rendez-vous qui depuis 2004 vous propose eh bien, de suivre l'actualité du libre, des logiciels libres et des questions de société et autres imbroglio politico-financiers qui se passent autour du libre.
Alors nous sommes sur Divergence FM 93.9 et puis aussi sur Radio Escapade 103.3, 104.1 puisqu'on élargit comme ça notre cercle d'auditeurs et puis aussi sur le net divergence-fm.org et puis Radio Escapades avec un S.org également.
Et on salue tous les escapadois.
Au sommaire.
Au sommaire.
Au sommaire, sommaire avec la revue de presse de l'April. Maintenant vous y êtes habitué. L'April, c'est l'association pour la promotion du logiciel libre. Ah, voilà notre correspondant qui nous appelle. Correspondant que nous aurons donc bientôt, c'est l'AFUL, l'association francophone des utilisateurs du libre, qui fait son AG, son assemblée générale à Montpellier. Nous en parlerons avec les protagonistes qui organisent localement cet AG, puis aussi avec la représentante de l'AFUL, Véronique Fritière. Et puis nous terminerons aussi par l'agenda du libre, agendadulibre.org. Et puis toutes les pauses musicales seront issues du concours actuel du net label Libre comme l'air. Un net label montpelliérain donc, qui a mis dans sa boîte à son des morceaux, du matériel et que bon nombre d'artistes ont repris et proposent comme ça. Donc un jury va écouter tout ça et donc ce sera notre fil musical. Gilles qui est à la technique et qui m'entend, on va lancer les nouvelles du front. Voilà, hop. C'est les nouvelles du front.
Aggressively seeking nuclear arms.
Les nouvelles du front.
Et oui, on ne peut pas répondre au téléphone, mixer, pédaler en même temps, répondre, parler au micro et jouer avec plusieurs écrans. Donc, nouvelles du front avec Emmanuel Charpentier et Luc Fievier qui nous font donc toutes les semaines la revue de presse de l'April. Et là, ils l'ont fait au sein de Radio Libertaire et en direct, mes amis. Donc, on écoute ça, c'est tout de suite.
Bonsoir. Bonsoir, Luc.
Bonsoir Manu, revue de presse de la semaine dernière.
Donc on dit bonjour aussi à Divergence FM. Donc le sommaire de cette semaine, semaine numéro 2 de l'année 2011. Donc je commence 10 ans et toutes ses dents. Les villages fleuris ont de la concurrence. Le retour de la vengeance des ninjas propriétaires. Plus de H pour Microsoft. Adopi, le pied gauche dans le libre. J'aime pas. Le libre m'a tué et VLC n'est plus dans le fruit. Alors, c'est quoi?
Alors, on en avait parlé la semaine dernière, mais tout le monde ne connaît pas ça. VLC, c'est un logiciel libre, bien sûr, qui permet de lire toute une série de médias, des vidéos, des sons, etc. Un des logiciels les plus répandus, les logiciels phares du logiciel libre, et qui avait été modifié pour pouvoir rentrer dans les applications Apple. Il faut savoir que tout ce qui est Apple, la plateforme d'Apple, l'iPhone, l'iPad, etc. sont des plateformes totalement fermées, à la fois techniquement, mais également au niveau du réseau, hein, où on est obligé de passer par le magasin en ligne d'Apple et ne mettre que des choses qui ont été approuvées par Apple. On ne peut pas passer outre.
Et donc là, un bon article de PC Impact. VLC finalement retiré de l'App Store, sans explication officielle, article de Vincent Herman. Donc qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à cet App Store et à VLC?
Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire, et c'est l'intérêt de cet article qui est intéressant pour ça, parce qu'il fait vraiment une bonne rétrospective de toute cette affaire-là. Donc, si on veut avoir une synthèse de l'histoire, on peut aller voir cet article. Il est bien foutu. Le problème, c'est que toute cette adaptation avait été faite donc, pour aller sur l'App Store, et il y a un des contributeurs du logiciel qui est plutôt anti-Apple et qui a dit ben, « moi, je considère que les conditions de l'App Store ne sont pas compatibles avec la licence du logiciel ». Donc, il n'a rien à faire là, en tout cas pas dans les conditions actuelles de l'Apple Store. Les gens du projet VLCE étaient plutôt favorables à ce que ce soit là-dedans, et parce que ça permet de le diffuser. Et bon, il y a eu un peu des hésitations, etc. Ça dure un certain temps. Et là, finalement, Apple a sorti VLC, mais sans donner aucune explication de pourquoi il l'avait fait.
Donc, je ne suis pas sûr qu'on en saura beaucoup plus à l'avenir, hein, parce qu'ils ne sont pas connus pour communiquer sur des choses aussi négatives, malheureusement. On peut espérer qu'il reviendra par la petite porte. Hein, des fois, des logiciels peuvent être installés à l'insu du voilà, propriétaire officiel.
Le fait qu'il soit rentré déjà, c'était une surprise. Il ne s'y attendait pas trop.
Alors, le libre m'a tué. C'est...
Alors, un article de l'Usine Nouvelle, Nexedi fait annuler un marché public défavorable à l'open source. Un article de Christophe Dutheil. Donc là, ça rejoint un sujet qui nous intéresse beaucoup et un chantier qu'on a lancé à l'April il y a peu de temps, qui est de s'attaquer aux appels d'offres publics qui, bien souvent en matière informatique, font référence à une marque, un brevet, ou enfin en général c'est des marques. On dit, bah voilà, on veut le système de marque machin, etc. Et c'est contre le code des marchés. Bien souvent, bah, le logiciel libre qui a tout un tas d'intérêts, notamment de faire travailler les gens locaux, par exemple, et d'être modifiable, souvent de coûter moins cher, et ce genre de trucs, ont du mal à émerger, et toutes les boîtes françaises qui bossent là-dedans ont du mal à s'aligner, parce que dans les commandes publiques, ils sont exclus d'office.
Et là, si j'ai bien compris, il faisait référence à Oracle, hein, qui est un gros vendeur de bases de données, qui coûte une fortune, et qui n'est pas du tout libre, hein, et donc voilà. Ça écartait des acteurs français.
Voilà, et Nexidi, donc cette boîte qui a attaqué cette décision, explique que la plupart des entreprises évitent de faire ça parce qu'elles ne veulent pas fâcher. Quand on a attaqué une collectivité, on peut se dire qu'on peut les brosser pour aller retravailler pour eux un jour. Et donc eux, comme ils font l'essentiel de leur activité à l'étranger, bah, ils sont rentrés dans le tas.
Bon, on leur souhaite bonne chance hein, pour trouver des clients. C'est, le logiciel, c'est ERP5, donc plutôt de l'usine à gaz, mais bon, de l'usine à gaz, logiciel libre pour gérer des gros trucs. Bon, bonne chance à eux.
Alors, j'aime pas. Donc, j'aime pas, c'est...
C'est article 01net, hein, c'est en référence. Alors, c'est la Free Software Foundation, la FSF, n'aime pas Facebook, article de Guillaume Delerance. Et le j'aime pas, c'est en référence au j'aime. Que voilà. Vous pouvez voir sur certains sites web.
Sur plein de sites, on a ça partout. Un petit bouton j'aime avec un petit pouce relevé, genre c'est bien. Alors à quoi ça sert? C'est quand on clique dessus, bah, quand on est logué sur Facebook, l'enregistrement de ce site, comme quoi un tel a aimé tel site et comment dire, est enregistré quelque part sur Facebook.
Supposément pour que vous montriez à vos amis, à votre famille, à votre patron, à votre chat que vous aimez bien ce site web.
Voilà, donc la FSF met en avant que bah, Facebook, c'est surtout un système de contrôle des données et de la vie privée, et qu'une fois qu'on a cliqué sur un site en disant j'aime, et bah on a, enfin Facebook a toute une série d'informations sur l'utilisateur et peut dire à ce site ah bah telle personne avec tel type de profil aime tel contenu. Et donc derrière, pour vendre de la pub et des choses comme ça, c'est bon art.
C'est une mine d'or, je cite l'article, hein, mine d'or pour la surveillance gouvernementale et les annonceurs publicitaires. Et je tiens à rajouter, parce que ça c'est un détail dont on ne parle pas toujours, l'article en parle un peu, en fonction de ce petit pouce qui est mis sur le site web, eh bien si le développeur qui l'a mis ce petit pouce, il ne s'est pas posé de question, il a pris l'image de chez Facebook, mais en fait il n'y a même pas besoin de cliquer sur le pouce pour que Facebook sache que vous êtes passé sur ce site web. Juste la présence de l'image leur donne des informations. Vous, qui vous êtes logué sur Facebook, vous avez un compte Facebook, vous allez sur un site où il y a ce petit point ce petit pouce levé en l'air, eh bien Facebook sait que vous êtes passé par là. C'est magnifique, c'est de l'argent bien gagné pour eux. Ils vont pas s'en plaindre. Heureusement, il y a des alternatives, hein, on en a déjà parlé.
Alors, Diaspora, bon, qui est vraiment tout début, il n'y a pas grand-chose à voir. GNU Social, StatusNet, qui est un truc à la Twitter. Crabgrass et Appleseed, hein, qui oui. Sont des projets libres de réseaux sociaux.
Et alors, en référence à tout ça, il y a un article cuonline.com, 10 projets open source à suivre en 2011, qui se rapproche un petit peu de tout ça, parce qu'en fait, ce qui marche bien en ce moment, c'est les logiciels sociaux et tout ce qui est le cloud, d'une manière générale. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en avant. Alors, un des projets les plus mis en avant, il s'appelle OpenStack, hein, c'est un projet de plateforme cloud, Donc on a des serveurs et on gère tout ça sur des serveurs et bonne chance pour récupérer vos données ne vous appartiennent plus. Et y en a d'autres, hein, Node.js et autres. C'est vraiment, ça marche très bien. Petite chose qui fait plaisir quand même, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de logiciels qui sont en AGPL. C'est une licence libre, vraiment très libre, et qui protège justement dans le monde du cloud.
Donc le cloud, c'est tout ce qui est service informatique par le réseau. Adopi, le pied gauche dans le libre, donc une nouvelle assez surprenante qui peut faire, enfin, être interprétée de différentes façons. Donc, c'est un article de développé.com. Adopi, le code de ses logiciels sécuritaires, sera totalement open source. Donc ouvrir la porte aux éditeurs, donc un article de la rédaction.
Et là, eh bien, ça fait plaisir, mais ça fait bizarre. Adopi, qui est plutôt un ennemi de la liberté, il faut pas se leurrer là-dessus, ils ne travaillent pas pour les citoyens, ils travaillent pour les grosses entreprises et les majors. Eh bien, eux, ils veulent qu'on installe dans le futur des logiciels sur nos ordinateurs, petits logiciels espions. On les installera volontairement, soi-disant. Et ces petits logiciels espions, eh bien, c'est assez marrant. Ils demandent à ce qu'ils soient faits en logiciel libre.
Alors, ces logiciels espions, l'intérêt, c'est censé disculper. En gros, on se surveille soi-même et si jamais on attaque... Enfin, accusé par Adopi de télécharger, le fait de, on ressort les journaux de ce système d'auto-surveillance et on dit, bah regardez, non, j'ai rien téléchargé.
Magnifique.
À partir du moment où c'est du libre, ça veut dire qu'on a accès au code source, ça veut dire qu'on peut le modifier. Donc n'importe qui pourra faire une version qui permettra de contourner justement ce système de surveillance et de mettre dans le journal à peu près tout et n'importe quoi, ou enfin en tout cas tout ce qu'on ne voudra pas mettre. Donc en soi, cette annonce, elle est un peu absurde. Mais en même temps, on sait qu'il y a quand même quelques experts qui ont dit que ces systèmes de journalisation, etc., c'était absurde, enfin, techniquement très compliqué. On sait qu'Orange, il y a quelques mois, avait lancé un logiciel. C'était une catastrophe, c'était des failles de sécurité. Ils se sont fait taper sur les doigts avec une violence terrible.
L'outil de sécurisation, vous ouvrez des failles sur votre ordinateur.
Voilà.
Magnifique.
Et donc, on peut avoir, bon, c'est juste une interprétation, ça mériterait de voir ce que ça donne. C'est qu'à partir du moment où ce logiciel de sécurisation est inscrit dans la loi, s'ils n'existent pas, ils ont le risque d'être dans l'illégalité. L'Adopi risque d'être dans l'illégalité en leur taper sur les gens. Ils auront beau jeu d'aller voir un juge en disant « Bah oui, mais dans la loi, je suis censé avoir un logiciel de sécurisation, il n'existe pas. » Alors bon, voilà. Donc du coup, il existera des logiciels de sécurisation, de journalisation complètement inefficaces, mais ils existeront. Donc au final...
Ouais, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Alors chose amusante, Numérama, ils font remarquer que l'Adopi serait dans l'illégalité parce qu'elle privilégie le logiciel libre. Alors, il y a Tanguy, le président d'April, qui a réagi, qui a fait remarquer que non, il n'y a pas de souci, là, on ne cite pas une marque, hein, logiciel libre. Justement, on ne bloque pas les concurrents, voilà. On laisse ouvert à tout le monde.
Le logiciel libre est une notion juridique, ce n'est pas du technique. Donc, on n'interdit rien du tout. Si les sociétés qui font du propriétaire veulent passer leur logiciel en libre, elles ont le droit, elles peuvent le faire.
Et à côté de ça, PC Impact fait remarquer le décret sur le transfert des emails de l'Adopi est attaqué en justice. Alors, il semblerait que ce soit Free, un petit troublion des fournisseurs d'accès, qui attaque un décret. Et je ne sais plus ce que c'est comme détail technique, ils n'ont pas notifié le décret aux autorités européennes, un truc dans le genre.
Voilà, c'était un décret qui était déjà destiné à obliger Free à fournir des informations à l'Adopi. Donc c'est
client.
La guerre de tranchées.
C'est assez rigolo, on voit ça évoluer. Vive Free, on espère qu'ils vont évoluer dans le bon sens. Alors plus de H pour Microsoft, c'est quoi comme H?
Alors celui-là ne fume pas, et si c'était le cas, je pense qu'il fait surtout mal à la tête. Article de Numérama, Google supprime le H264 des codecs vidéo supportés dans Chrome, par Guillaume Champeau.
Bon, alors là, je vais rapidement expliquer. H264, c'est un truc imbitable, hein. C'est un codec vidéo, ça permet de lire des vidéos sur le net. Hein. Quand vous allez sur YouTube ou n'importe quel site qui fait du porno, il y a des chances que vous récupériez ça. C'est ce qui vous permet d'avoir de la vidéo. Mais il se trouve que les navigateurs essaient de standardiser, et Microsoft propose un truc qui s'appelle H264, il y a des brevets logiciels derrière, il faut payer de l'argent à un consortium, MPEG est là, c'est la merde. Et Google, eh bien, ils ont fait chier. Alors qu'ils le supportent actuellement, ils ont dit qu'ils allaient arrêter et qu'ils allaient supporter un truc qui s'appelle WebM, qui est un concurrent qui n'a pas de brevet logiciel derrière et qui est en full libre. Donc ça fait plaisir parce que grâce à ça, ça veut dire qu'il y aura Mozilla, enfin Firefox et Google qui seront les deux plus gros à fournir ça. Ils dépassent largement les 50% de part de marché des navigateurs. Et donc ça fait vraiment mal au cœur à Microsoft qui réagit et qui a fait une sorte d'article complètement à la ramasse qui s'appelle sur PCWorld.fr. codec vidéo, Microsoft se moque de Google. Ils ont essayé de faire une lettre ouverte du président des États-Unis de Google, où ils font remarquer, enfin, une petite citation, « Ne plus supporter le H264 revient à imposer aux gens un langage que personne n'utilise. » Bref, c'est idiot, mais bon, ils ne savent pas trop quoi faire. Et cette histoire de codec, ça peut être quand même amusant. En vive les vidéos.
Ça tourne dans le bon sens, parce que avec cet aspect propriétaire, c'était vraiment un moyen d'aller casser les pattes de Firefox notamment.
Alors, le retour de la vengeance des ninjas propriétaires. Moi, j'ai rien compris.
Alors, bon, bah voilà. Non, alors, c'est donc un article de ZDNet. Le consortium CPTM piloté par Microsoft ne renonce pas au brevet de Novel par la rédaction. Donc, ça, c'est une histoire. Encore là, c'est de la guerre de mastodonte. Il y a un consortium d'entreprises et pas des moindres. Donc, Microsoft qui pilote la chose. Mais avec Apple,
EMC, enfin voilà. Il y a plusieurs gros trucs, mais à chaque fois c'est des milliards et des milliards.
Voilà, des très très grosses boîtes qui en gros, un peu discrètement au travers d'un consortium qui initialement ne disait pas qui était, essayaient de racheter les brevets d'une entreprise allemande qui s'appelle Novel et qui est en train d'être rachetée.
Et des brevets pour 450 millions de dollars, voilà, et il est supposé y avoir 800 brevets ou 80 brevets, enfin, voilà. Je ne sais plus.
Et donc, s'ils dépensent cet argent, c'est assez inquiétant, parce que les brevets, bon, les brevets logiciels ne sont pas reconnus en Europe, mais ils le sont aux États-Unis. Et le logiciel libre est, comment dire, inatteignable en vertu de sa licence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être acheté. Donc, le brevet logiciel est finalement le moyen que ces grosses entreprises ont pour imposer leur loi en disant « nous possédons cette idée », ce qui est une absurdité sans nom. Mais en tout cas, voilà, pour acquérir le pouvoir et casser tout ce qui peut leur faire de l'ombre, c'est l'arme qui leur reste jusqu'à maintenant. Donc cet investissement, 450 millions de dollars, ils ne les mettent pas là par hasard. Donc c'est très clairement une manœuvre pour aller casser la concurrence.
Et de ce que j'ai compris de l'article, justement, ils ont déposé un dossier. Il y a des associations de logiciels libres qui sont rebiffées, qui ont dit « Mais attendez, là, c'est une sorte de cartel que vous allez monter. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est pas transparent. Expliquez-nous. » Ils nous ont demandé aux autorités d'interdire ces rachats, même si en Europe, on s'en fiche un peu, mais ça nous touche par les États-Unis. Et là, le consortium CPTN a retiré son dossier d'achat sur les brevets. Donc tout le monde lève les bras en l'air. Ouh, youpi, on a gagné, génial. Ce serait pas la première fois, mais ça fait toujours plaisir. Et non, finalement, c'est reculé pour mieux sauter. Ils ont retiré le dossier temporairement. On va voir, ils vont le redéposer. Enfin, en tout cas, c'est vraiment leur but. Ils veulent tuer le logiciel libre d'une manière ou d'une autre. Les brevets, c'est une manière qui peut très bien fonctionner. C'est cher, mais après tout, pourquoi pas, hein, ils ont de l'argent.
Alors, les villages fleuris ont de la concurrence. Donc là, donc, article 01 Net Pro, le palmarès 2011 des villes Internet par Marie Young. Donc voilà, en fait, c'est un classement de villes qui font des trucs dans l'Internet, tout ça.
Alors, Luc n'est pas fan, mais moi, oui. Je suis désolé. Les villages fleuris, c'est génial. Et là, justement, ils ont fait quelque chose d'équivalent. C'est les villages, les villes qui sont bien placées en Internet. Et ils ont une mention spéciale logiciel libre pour l'engagement dans le domaine. C'est très bien. On gagne des arrobas. C'est les petits signes qui sont dans les emails. Jusqu'à 5. Magnifique. Génial. Continuez.
Bah, allez voir si votre ville y est. Voilà.
Alors, 10 ans et toutes ses dents.
Donc là, un article de OVNI, OWNI, Wikipédia 10 ans, par Jonathan Lafargue, qui a un long article bien synthétique, qui reprend tout l'historique. Alors, Wikipédia, ce projet maintenant que tout le monde connaît, et qui a beaucoup évolué, qui est vraiment rentré, qui est devenu une institution. Hein. Il y a plein de débats qu'on avait, qu'on n'a plus aujourd'hui. Allez le lire, parce que c'est une bonne synthèse.
Il est long,
c'est très complet.
Mais il explique vraiment les problèmes. Le journaliste lui-même était contributeur, il l'est plus, il explique pourquoi.
Voilà, il connaît vraiment bien son sujet, et c'est long, mais c'est bien écrit, donc ça coule tout seul.
Et 10 ans, bon anniversaire Wikipédia, c'est génial, continuez.
Voilà, bon anniversaire. Et nous, Manu, on se retrouve la semaine prochaine.
Pour la revue de presse de la semaine 3, on va vous laisser, et bonne soirée.
Ah, bravo, bravo, quelle excellente revue de presse, mes bons amis.
Et oui, revue de presse de l'April que l'on trouve sur april.org et puis sur Dogmazic, dogmazic.net, revue de presse April. On va faire une petite pause musicale avec le concours actuel du net label Libre comme l'air. En été 2009, Libre comme l'air, LCL, un label de musique français montpellierin, hein, en ligne, ouvre une banque libre de sons sous Creative Commons remplie par les artistes qui ont collaboré ou publié sur ce net label. Et puis, pour répondre à la nouvelle, le label décide d'organiser un concours de remix sur cette banque de sons. Et puis, en janvier 2011, les inscriptions au concours étant désormais closes, le net label était initialement censé faire une présélection des pistes qu'ils ont reçues, mais ils ne pouvaient pas tout simplement parce que, à cause de la variété et la qualité des pistes, dub, reggae, électro, acoustique, etc., ils laissent donc le jury en décider, dont Divergence FM, Netwave, Net Audio Berlin, Aquaid Bump, Dogmazic également. Vous pouvez retrouver tout ça sur les liens de l'émission. Et puis, on va donc écouter comme pause musicale
Animal Cupcake, me semble-t-il. Allez, le cupcake est une spécialité, une pâtisserie américaine que l'on ne saurait trop vous déconseiller.
And got cupcakes. It was one of those real fancy places where all the cupcakes were in different shapes. It was like airplanes and buses and shoes and hats and stuff. There were also a bunch of animals. I got one that looked like a rhinoceros. When I sat down to eat it, I felt funny because I had seen a rhino at the zoo and I'd really liked it. Somebody suggested that I pretend I was a lion, and that's what I did, and it worked. I ate the cupcake and it was really satisfying.
Oui, c'était un autre morceau. Vous aurez remarqué que la banque de sons est la même, mais les morceaux composés sont légèrement différents. Tout ça, c'est sur lcweb.org, toujours sur Divergence FM 93.9 et puis Radio Escapade 103.3, 104.1. Nous sommes maintenant avec une membre de la FUL, Association francophone des utilisateurs du logiciel libre. Bonsoir.
Bonsoir, Véronique Fritière à l'appareil.
Oui, Véronique, qu'on avait eu déjà au téléphone, si nos auditeurs nous suivent bien, pour les JM2L.
Oui, à la suite des IM2L, nous avons eu la chance d'être invités par Toulon à la journée informatique du Libre, où nous remercions mille fois PostPro pour leur généreuse invitation et la charmante journée. Alors, aimerions également, en tant que Linux Azure, vous faire part de deux petits événements. Le premier, le 21 janvier à Antibes, la rencontre Accès Libre avec un atelier Unix. Et ensuite, à Draguignan cette fois, puisque nous sommes nomades et partons nous promener partout, à la médiathèque de Figanière, puis à la médiathèque de Draguignan, le samedi 12 février 2011, pour une grande journée, pour essayer Linux et les logiciels libres sur vos ordinateurs, avec install party, atelier et conférence. Et maintenant, je vais prendre ma petite casquette à full pour tout vous raconter sur l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Alors, j'écoute tes questions, Pascal.
Oui, alors déjà, on peut présenter un petit peu ce qu'est la FUL pour ceux qui nous écoutent.
Alors, elle existe depuis 1998 et son but premier est de promouvoir le logiciel libre et en particulier les systèmes d'exploitation comme GNU Linux ou les BSD. Elle aide à la diffusion des standards ouverts. C'est une organisation à but non lucratif. Elle réunit des utilisateurs, des professionnels, des entreprises et d'autres associations situées dans plus de 10 pays et régions francophones. On peut citer la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Québec, les pays d'Afrique francophone, etc.
Ça doit représenter pas mal de membres, tout ça. Hein.
Énormément. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plusieurs centaines de membres qui ont la chance, de, par leur diversité et surtout une décentralisation, à travers des actions locales. C'est sa grande force, je dirais.
Alors, ce qui nous amène là dans cette divergence numérique, c'est que, puisque nous sommes sur Montpellier, c'est que la FUL vient à Montpellier.
Eh oui, chaque année, la FUL change de maison pour son assemblée générale. Comme Linux Azure, c'est une grande nomade. Elle a déjà fait Lille, elle a déjà fait Soissons, sans casser le vase. Hein. Elle est déjà passée un peu partout. Et cette année, elle a choisi Montpellier pour se rapprocher un peu du soleil, bien sûr, et puis pour se rapprocher aussi de Divergence FM et des associations qui sont à Montpellier. Concernant l'année 2010, l'Assemblée Générale se tiendra bien sûr à Montpellier le 29 janvier 2011.
Alors c'est vrai que c'est organisé en collaboration avec donc les GUL locaux, les groupes d'utilisateurs... Oui. Sur Linux, avec notamment Montpellier Libre, que nous recevons en même temps en la personne de Pascal Arnoux.
Ah, impeccable.
Bonjour.
Ce qui est notable, c'est que la FUL regroupe un agenda, en fait. Non, c'est pas un agenda, pardon. C'est une liste qui regroupe tous les LUC de France. Alors la FUL a aussi la particularité d'aider énormément les LUG, c'est-à-dire que si tu es membre d'un LUG, par exemple Montpellier Libre, tu payes une cotisation de X euros et tu cotises aussi à la FUL pour le minimum vital de 20 euros. À partir du moment où la cotisation de Montpellier Libre est inférieure à la somme de la FUL, tu peux te faire rembourser la moitié de ta cotisation par la FUL. C'est généreux, n'est-ce pas ?
En effet, oui.
Dingue.
En effet.
Gilles, assez insolite.
Gilles, tu peux aussi intervenir. Hein. Tu as un micro. Et...
Oui, mais ça fait quelques jours à peine que j'ai repris du service, alors j'y vais mollo.
Ah, d'accord. En douceur. Oui, alors pourquoi avoir choisi Montpellier ? Puis je vais aussi laisser la parole à Pascal Arnoux. Vous avez des critères. C'est un concours. Il y a une sorte de cahier des charges à remplir et une sélection finale ?
Pas du tout. Le but pour nous, c'est la décentralisation et les actions locales. Alors la décentralisation, c'est justement de faire voyager la FUL, que ce soit au travers des manifestations ou de son assemblée générale. Et les actions locales, c'est justement, puisqu'elle soutient énormément les lugues, c'est de venir rencontrer les lugues elles-mêmes.
Alors Pascal, ton ressenti, parce que là j'ai dit non, il n'y avait pas de concours par de shortlist, et là tu as un peu...
Ah. Non, ça a été, en fait il a fallu s'organiser, essayer de trouver toutes les émergences locales, donc motiver un petit peu toutes les associations, il y en a pas mal ici sur Montpellier. Et puis organiser tout ça, l'hébergement, la restauration et puis la salle.
Donc il y a quand même un cahier des charges bien précis quand même. Trouver une salle qui puisse être
suffisamment grande,
accueillir du monde,
pas très loin du point de restauration.
Ouverte jusqu'à 23h.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est pas évident, tout ça.
Bon, on a trouvé ça, prêté gracieusement par la ville de Montpellier, merci.
Donc ça se passera à la maison, à la salle municipale de l'espace Jacques Ier d'Aragon.
Voilà, c'est ça.
Au rez-de-chaussée.
Place de la Révolution française dans le quartier Richter. Et le restaurant est attenant. Donc ils vont nous servir le repas dans la même salle.
Alors, du fait de la décentralisation donc de cette assemblée générale par une association francophone d'une ampleur
internationale,
tout à fait, cela fait effectivement un événement très fort sur Montpellier ce 29 et 30 janvier 2011.
Oui, oui, c'est sûr. Nous allons en profiter pour présenter un peu les, pas très très longtemps. Un peu les associations du libre de la région, la Frule, Montpellier, Montpellier Wireless, la Linuxerie peut-être, Paralinux et d'autres. Donc nous allons présenter un peu tous nos projets. Et puis, évidemment, nous serons très intéressés à écouter... tous ces débats de l'Assemblée Générale, évidemment.
Alors justement, c'est quelque chose qui est assez original, Véronique, pour une Assemblée Générale d'associations dans un thème aussi pointu que l'informatique, les logiciels libres, les formats ouverts, etc. Les gens s'imaginent toujours que les Assemblées Générales, c'est un petit peu le linge sale de la famille associative qui s'y lave parfois. À la FUL, à chaque fois que vous faites une Assemblée Générale, c'est aussi pour ouvrir les portes à un public qui, même si on lui demande de rester discret lors des débats ou etc., c'est welcome, quoi. C'est les portes sont ouvertes et à chaque AG de la FUL, venez.
Accès libre et entrée libre, même si on n'est pas membre. Le but du jeu, c'est de fédérer les gens, de les amener à comprendre les buts de la FUL, en quoi on peut les aider. C'est de leur faire comprendre, par exemple, l'intérêt des groupes de travail comme Interop ou droit d'auteur ou etc. Ou relations avec d'autres structures. C'est aussi la vie de l'association, c'est également les infrastructures. C'est également pour tout public l'occasion de profiter de conférences je dirais pas d'atelier, parce que cette année, on n'a pas prévu d'atelier, mais par exemple de conférences sur des sujets qui sont hautement pointus, comme tout ce qui est légal, interopérabilité.
Répétitiel aussi, peut-être
Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, comme tu l'as dit toi-même, les standards. Et ça peut également déboucher sur comment utiliser GIMP ou Inkscape. Donc c'est vraiment toucher un public très large, très varié, leur faire comprendre qu'une association orientée logiciel libre est ouverte à tout public et que donc elle est très accueillante et qu'elle invite qui a envie de l'écouter de venir, comme tu irais sur un marché choisir de beaux fruits et de beaux légumes.
Alors la dimension...
Cette année, bien sûr... ce qui va être mis en avant, c'est le travail redoutable de Racketticiel, bien sûr, parce que quand même, c'est une grande bataille juridique qu'ils ont gagnée. Par exemple, ils ont réussi à prouver que quand on achète un ordinateur personnel, on paye de 10 à 30% de logiciels. et que si on va chez son marchand préféré, bah, on peut négocier le prix de 10 à 30% en demandant un ordinateur sans système d'exploitation, hein, pour donner un exemple précis sans dire qui que ce soit. La très belle victoire encore de la FUL, c'est l'arrêt numéro 995 du 15 novembre 2010 de la Cour de cassation qui récompense le travail de ce groupe qui vient de franchir une étape décisive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de te vendre un ordinateur avec un système d'exploitation imposé. Et ça, quand même, ce sont des points d'orgue magnifiques pour la FUL.
Alors, effectivement, donc ne pas vendre un ordinateur avec un système d'exploitation imposé, ok, c'est bien dans le texte, mais sur les faits, est-ce que c'est vraiment, vraiment concret ? Est-ce que, est-ce que les grandes enseignes d'hypermarché, par exemple, vous achetez la baguette de pain et le PC qui va avec, et puis vous avez peut-être l'OS qui va avec aussi, hein ?
Non, aujourd'hui, elles sont de plus en plus conscientes, les grandes enseignes, qu'elles se donnent une mauvaise image de marque en imposant un système d'exploitation. Mmh. Et elles sont de plus en plus ouvertes à notre discours quand on les rencontre et quand on vient leur poser des questions ou même simplement quand on leur écrit. Elles répondent de plus en plus directement, alors qu'avant elles se cachaient derrière des soi-disant pseudo-règles internes, je ne sais quoi. Non, maintenant il y a de plus en plus une vraie réponse, surtout que, comme je te le disais, hein, cet arrêt de la Cour de cassation leur porte préjudice, et tu sais comme moi que la crise financière fait que le commerce et l'économie ne vont pas très bien, et elles ont intérêt à attirer le public en se montrant sur leurs meilleurs jours.
Oui, puis c'est vrai qu'il y avait, il y a quelques mois de ça, on avait souligné l'effort d'une chaîne de grande distribution qu'on ne citera pas aujourd'hui, puisqu'on les avait déjà cités une fois, mais qui avait mis un petit panonceau dans leur rayon informatique stipulant bien que si l'on désirait acheter un ordinateur sans logiciel ou sans système d'exploitation, il suffisait de demander au gentil vendeur qui se chargerait de cette formalité. Donc vrai que ben, ils ont tendance à jouer le jeu, et puis bon, comme tu le disais, par temps de crise, il faut...
Et prometteur, et que l'ambiance est lancée, et que de plus en plus de compagnies et de groupes et de grandes enseignes ont compris que le logiciel libre et l'open source avaient leur place, que c'était des moyens aussi de gagner de l'argent et qu'il ne fallait pas les négliger.
Ça, ils sont jamais les derniers à négliger n'importe quel moyen de faire du pognon.
Oui, mais jusqu'à présent, ils n'avaient pas très très bien compris comment ça fonctionnait. Et maintenant, ils ont de plus en plus de personnes dans leur service. Quand tu vas dans les rayons, maintenant, on te parle de traitement de texte, de tableur, pour parler de produits grand public. Hein. Autrefois, on te citait un nom forcément
propriétaire,
qui n'était pas forcément adapté à ton logiciel libre. Aujourd'hui, ils font un peu plus attention à ce genre de choses. Ils deviennent un peu plus...
Donc ça va dans le bon sens.
Dans le bon sens, bien sûr. Dans le bon sens.
Oui, pour en revenir
cette
à...
Cette année, la FUL, qu'est-ce qu'elle va proposer à ses membres et à ses auditeurs, hein, puisqu'on est à la radio.
Ouais.
Elle va d'abord rappeler ce qu'elle a fait en 2010, c'est-à-dire énormément de conférences, hein, énormément, des conférences, des stands, des journées internationales. Elle a bien sûr participé au RMLL, elle a participé au JM2L de Linux Azure, elle a participé à PhiloWeb, aux journées Wikimedia, j'en passe, etc. Elle est allée un peu partout. Si on regarde le rapport moral, ça va de Paris à Aix, en passant par Sophia Antipolis, Lille, et j'en passe. Ce qui est important, c'est qu'elle a plusieurs intervenants. Comme je te disais, elle a aussi des intervenants décentralisés, c'est-à-dire que bah, aujourd'hui, c'est moi qui t'appelle d'Antibes pour promouvoir une action d'une asso qui est basée initialement à Paris. que c'est très souvent qu'on la représente quand on va à droite à gauche nous-mêmes dans porter la bonne parole chez les uns et les autres. Il ne faudrait pas oublier aussi le groupe de travail éducation qui a réussi à signer une convention Paris Dauphine, les cours de logiciels libres à l'ESIA, les séminaires informatiques à Paris Dauphine encore. Faut pas oublier aussi le travail cette année puisqu'on parlait de la venue de la FUL à Montpellier. Faut savoir que celui qui coordonne la centralisation de toutes les demandes des uns et des autres, c'est Édouard Damon, c'est énorme. Il a un travail de folie puisque chacun lui écrit en privé pour lui signaler s'il est d'accord ou pas pour arriver tel jour, manger ceci, partir telle date. C'est un énorme travail de chacun. C'est franchement ça qui est formidable, c'est que on se voit rarement du fait de notre éloignement géographique, je dirais, mais qu'on est toujours main dans la main et que c'est une grande chaîne de solidarité. Sans oublier tous les copains d'Aix, Marseille, etc., pour parler de la région du Sud un peu. Hein. Mmh. Parce que bon, toujours les gens du Nord, nous aussi on est là.
Alors peut-être pour terminer, justement, en attendant que l'Assemblée Générale de la FUL se passe, je ne sais pas, moi, en Belgique, en Suisse, au Québec ou dans l'Afrique fantôme. Voilà, j'imagine que c'est prévu.
C'est prévu, ça a été simplement le mauvais concours de circonstances. C'est que les gens qui ont proposé de la place, que ce soit en Belgique, en Suisse ou je ne sais où, ou même dans le Sud-Est, pour être franche, nous n'avions pas trouvé de salle de réunion assez grande.
D'accord.
Et pas de disponibilité incluse jusqu'au dimanche. Chose qui pourrait changer sur Sophia Antipolis, par exemple, puisque nous sommes en relation avec la Fondation, sous la houlette du sénateur Lafitte qui lui-même a rédigé beaucoup d'amendements pour le libre.
Très bien, ce qui m'amène justement à la question avec laquelle je voulais conclure. Vous attendez combien de personnes justement pour cette Assemblée Générale, ce qui pourrait inciter le public montpelliérain éventuellement à se renseigner?
Alors, pour l'instant, nous attendons pas moins d'une cinquantaine d'affuliens. Mais les chiffres bougent tous les jours et je ne voudrais pas annoncer 50 si on est 42 ou 78. Hein. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on était en attente d'une cinquantaine.
Parfait. Eh bien,
partout,
et au niveau de la salle, c'est bon, on tient.
Hein,
oui,
elle
est assez grande.
Dans toute la communauté européenne également.
Très bien, j'imagine qu'on pourra retrouver toutes les autres informations évidemment sur aful.org.
Bien sûr.
Et on ne saurait trop encourager les Montpelliérains à venir faire un tour à l'espace Jacques Ier d'Aragon. Ce sera pas un lundi, pas du tout, ce sera bien le 29 janvier, mais ce sera
samedi,
pas du tout.
Le samedi 29.
Ce sera des samedis, dimanches, un très joli week-end. Nous les accueillerons avec notre sourire et...
Ça commence à partir de quelle heure le samedi?
Alors, à partir de 10h, à ma connaissance, mais je peux encore là.
En tout cas, toutes les infos, c'est sur aful.org pour tous les détails.
Oui, le mieux, c'est de vérifier en ligne pour avoir exactement...
Le samedi, je crois que ça se termine à 23h et ça reprend le dimanche matin. Voilà. Vous avez une belle... un beau week-end qui vous attend pour faire plus ample connaissance avec cette communauté, ces membres de l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres.
Véronique, merci beaucoup. On vous souhaite en attendant de bons préparatifs. Il vous reste à peu près 10 jours, donc il va falloir y aller.
Merci Pascal. Oui, on s'y attelle. Et merci encore à ceux qui nous reçoivent. Et à très bientôt à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Véronique.
Et c'est avec une petite pause musicale à présent que l'on va se poursuivre, Pascal, avec, je crois, Them Never Love No Bands.
Voilà.
Ceux qui n'ont jamais aimé.
Alors c'est toujours avec la même boîte à son, hein, du net label montpelliérain LCL, Libre comme l'air. Et en fait, il n'y a pas de licence sur ces morceaux-là, encore. Ils seront choisis, en fait, parmi les 20, il y en aura 10 qui seront choisis au final et qui reviendront, qui rejoindront donc une compilation, effectivement, avec sans doute, puisque j'ai posé la question dans Allez Libre Ma Musique, au Net Label, notamment, puisque la dernière était consacrée à ça. Ils vont demander, en fait, aux auteurs sous quelle licence ils veulent mettre leurs morceaux. Donc on écoute ce que tu nous disais.
Voilà, c'est Hot Fire de Them Never Love No Bands. C'était plutôt pas mal celui-là.
Et voilà, allez, et toi aussi, tu dois tout écouter, les 20 morceaux, et choisir 10 morceaux parmi les 20.
Eh bien, je vais me faire un régal de me montrer intransigeant, impitoyable et imbuvable.
Et tu as tous les liens sur donc, le site, sur l'article de l'émission divergence-fm.org, rubrique Société Divergence Numérique. On termine cette émission par notre traditionnel agenda du libre. Donc agendadulibre.org pour nous français, on va dire. Agendadulibre.be pour nos amis belges, puisqu'on est aussi écouté ou net écouté là-bas en Belgique. Et puis agendadulibre.qc.ca pour nos amis québécois de la Voix du Libre. Petit coucou. L'agenda du libre, ben, on commence tout de suite avec le vendredi 21 janvier de 14h30 à 18h30. C'est à la Maison pour tous, Mélina Mercouri. C'est pas loin de d'IBM, juste en face. Des ateliers libres, donc des ateliers pratiques sur le thème des logiciels libres. Troisième vendredi de chaque mois, on peut y assister, donc à des ateliers d'initiation aux logiciels libres et Linux sur plusieurs séances. Donc cette fois-ci, ce sera le logiciel GIMP qui sera à l'honneur.
Et puis sinon, demain, si vous avez un Concorde, un Supersonic ou une machine à vous télétransporter, vous pourrez aller à Paris pour le Spring Cubic Wave Web à Rennes pour une permanence Gulliver autour du Libre, ou à Téhéran, un peu plus près de chez nous tout de même, avec toujours les ateliers libres de Montpellier qui aborderont les notions PC.
Oui.
Non pas le Parti communiste, mais bien l'ordinateur personnel.
Peut-être un petit mot, Pascal, puisque justement c'est organisé par... la prolifique association Montpellier-Rennes.
Les notions PC ?
Oui.
Donc, ce sont des ateliers le mardi et le vendredi, animés par Mathieu Beck. Donc, c'est à la médiathèque de Téhéran. Et donc, il fait des initiations GIMP, OpenOffice et Audacity.
Et OpenShot Video Editor,
oui, oui,
également.
Exact.
Qui est un éditeur de vidéos non linéaires, très bon, et en plus interfacé maintenant avec Monsieur Blender, logiciel de 3D. Monsieur Mathieu Beck, que je recevrai d'ailleurs ce samedi dans Elle est libre, ma musique, sous le pseudonyme de Triton, qui nous fait de l'électro expérimental ambiante. À Castelnau-le-Lez, le 25, de 9h à 10h, au centre André Malraux, donc des ateliers pour découvrir ou installer Linux en utilisation journalière, administration du système. Le contenu de l'atelier s'adapte aux problèmes des personnes présentes, possibilité de présentation d'un logiciel libre ou bien encore programmation LaTeX.
Et puis cette même date, des rendez-vous. D'ailleurs, à noter que sur agendadulibre.org, vous pourrez constater de visu que finalement, les rendez-vous autour du Libre sont de plus en plus nombreux dans de plus en plus nombreuses villes, puisque ce 25, outre Castelnau-le-Lez et Téhéran, évidemment, puisqu'on sera un mardi, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, ce sera à Brignoles, à Dijon, à Lille, à Rennes, avant le lendemain de partir pour Béthune, Paris ou Toulouse, ou Lille encore le 27. Il y a beaucoup de rendez-vous partout en France et espérons qu'il y en ait encore davantage à l'avenir.
Oui, et puis n'oubliez pas le 29 et 30 janvier, donc comme nous le disions tout à l'heure, à l'espace Jacques Ier d'Aragon, à la salle au rez-de-chaussée, c'est l'Assemblée Générale de la FUL, l'Association Francophone des Utilisateurs du Logiciel Libre. C'est libre en entrée. Venez écouter, venez discuter après avec les différents groupes de travail de la FUL.
En avons-nous fait le tour ?
Je pense. Là, on est déjà fin janvier. Le reste, ce sera dans une prochaine divergence numérique. Peut-être la semaine prochaine, nous parlerons propriété intellectuelle.
Ah mais non, il nous faut. Stallman nous a bien expliqué qu'on ne dit pas, on ne peut dire ce mot.
Bah justement, on dira pourquoi il ne faut pas le dire. Ce sera donc la semaine prochaine sur Divergence numérique. Merci de nous avoir écoutés. Tu lances le générique de fond ou.
Le générique de fond ou le générique de fin ou la musique de fond avant le générique de fin, c'est une option à choisir vraiment avec
un certain
discernement. Alors, générique.
C'est vrai que j'ai plus l'habitude, c'est moi qui manipulais les boutons et maintenant c'est Gilles pour cette émission. Ah, quel plaisir de t'avoir de l'autre côté. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Portez-vous bien, portez-vous libre.
Et portez-vous avec les pieds.
Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states. Terrorist networks, terrorist states.
Terrorists will acquire weapons of mass destruction.